www.radioscoop.ch.
Espace 2.
Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire. Aujourd'hui encore, un rossignol est perdu, c'est-à-dire Reynaldo Hahn. Soyez les bienvenus. Bonjour Olivier Robert.
Bonjour Jean-Luc.
Cette semaine, c'est donc ce rossignol éperdu que vous nous faites redécouvrir pour certains, découvrir pour beaucoup, c'est-à-dire Reynaldo Hahn, l'homme et le musicien, le compositeur, un compositeur pluriel. De quoi sera-t-il question aujourd'hui ?
On va parler du plaisir de la scène, c'est-à-dire l'un des endroits où Reynaldo Hahn est le plus à l'aise. C'est un homme qui a écrit six opéras même,
oui.
8 opérettes, une série de musique de scène et des ballets.
On a une heure pour en parler. Mais que reste-t-il, Olivier Robert, aujourd'hui de toute cette musique considérable ? Vous me parlez d'une demi-douzaine d'opéras, de ballets, de musique de scène, d'opérettes.
Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Puisqu'il n'y a plus un seul enregistrement disponible de Reynaldo Hahn et qu'il n'y en a jamais eu beaucoup dans le disque.
Oui.
Alors, on va essayer de découvrir quand même quelques œuvres avec des enregistrements soit pris sur le vif, soit obtenus par copie de cassettes audio anciennes, etc. Donc, la qualité, je m'en excuse, la qualité d'écoute ne sera peut-être pas exceptionnelle. Par contre, la qualité musicale, je pense, vaut la peine qu'on se donne la peine de les écouter.
Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de voir et de discerner un peu plus précisément, Olivier Robert, parce qu'il n'y a jamais de hasard dans l'histoire de la musique. Les choses, il n'y a pas de chefs-d'œuvre incontestables qui dorment dans des tiroirs. En revanche, peut-être qu'il y a de la musique intéressante qu'on n'ose plus trop monter. C'est vrai qu'aujourd'hui, afficher Reynaldo Hahn sur une scène d'opéra, c'est prendre un gros risque en même temps, c'est sûr.
On l'affiche dans Ciboulette encore occasionnellement, voilà. C'est l'œuvre la plus jouée. Mm-hmm. Pour le reste, je pense effectivement, il y a des œuvres qui sont un petit peu maladroites. Il y a quand même de l'opérette qui tient la route, avec des livrets peut-être un peu sommaires et pas excellents. Et puis, il y a ce Marchand de Venise dont on essayera de comprendre pourquoi il n'est plus monté, malgré des qualités tout à fait extraordinaires.
Très bien. Par quoi est-ce qu'on commence ?
On va commencer dans l'ordre par le premier opéra qui est L'île du rêve. Alors, c'est assez étonnant de voir Reynaldo Hahn qui se lance dans l'opéra alors que c'est un compositeur dit mondain qui écrit des musiques, des mélodies, des romances et des choses de ce type-là.
Oui.
Et il va quand même se mettre à l'écriture d'un opéra, il a moins de 16 ans. C'est Pierre Loti qui lui confie son roman autobiographique qui s'appelle Le mariage de Loti pour qu'il le porte à la scène. Loti a demandé à George Hartmann, qui est un éditeur, et c'est notamment aussi le librettiste de Werther, d'écrire un livret pour transférer cette œuvre, ce roman à la scène. Et Hahn accepte le défi, mais c'est difficile pour un compositeur d'écrire une œuvre d'une heure et demie, alors qu'il est habitué à écrire des pièces de 3 minutes. À 16 ans, imaginez
16 ans,
quand même.
Hein, bon, tout le monde a écrit une tétralogie à 16 ans, mais en même temps, peu l'ont sorti d'un tiroir.
Hein. Oui, et lui a la promesse que ça va être monté.
Oui.
Il connaît Carvalho, le directeur de l'opéra comique, grâce à Massenet qu'il pousse à écrire, et Carvalho s'engage à monter l'œuvre. Il part en Allemagne pour un très long voyage de plusieurs mois, pendant lequel il écrit avec beaucoup de peine son premier acte. Et quand il rentre, il le joue à Daudet devant Loti. Loti se dit enchanté de cette œuvre et de ce premier acte. Massenet trouve que c'est magnifique et encourage Reynaldo à écrire la suite, mais il en reste deux. Donc il y aura encore du travail.
Massenet, dont on rappelle qu'il a été un peu le mentor du jeune Reynaldo Hahn, hein, en même temps que son professeur.
Oui, il a découvert en Reynaldo des qualités de mélodiste extraordinaires qui lui ressemblaient chez les deux hommes. On va le voir particulièrement aujourd'hui, il y a une parenté d'écriture tout à fait saisissante. Il est clair que quand Reynaldo veut écrire un opéra, ben il doit chercher des modèles, Gounod, Saint-Saëns et puis Massenet avec lequel il cohabite depuis pas mal de temps musicalement.
Oui.
Malheureusement, Carvalho arrive à l'âge de la retraite, il a 70 ans, et puis il va pas monter l'œuvre, il hésite à monter l'œuvre d'un débutant, et finalement c'est son successeur, Albert Carré, qui est un grand bonhomme aussi, qui accepte en 1898 de donner cette œuvre en première représentation à l'Opéra Comique. C'est quand même une chose extraordinaire pour un jeune compositeur d'avoir l'occasion d'être joué, mais Albert Carré prend un risque minimum puisqu'il monte l'œuvre avec une œuvre de Léo Delibes. Le roi l'a dit, qui est une œuvre qui a beaucoup de succès, avec laquelle il est sûr de ne pas se fourvoyer. Mettre ces œuvres ensemble, qui ont une esthétique totalement différente, n'est pas forcément une très bonne idée. Et même si l'œuvre de Reynaldo Hahn, on en souligne ses qualités, oui. Delibes n'a pas du tout la même vision des choses, le même orchestre. Pour créer la fusion entre les deux œuvres, André Messager, un grand chef d'orchestre de l'époque, oui. Un homme à l'affût de tout ce qui se fait en matière de musique, créateur quand même de Péléas, premier chef d'orchestre de Péléas, et dont Bernard Gavotti dit qu'il a réformé la manière de diriger l'orchestre.
Bernard Gavotti,
l'homme qui a écrit le livre sur Reynaldo Hahn, qui lui a succédé comme critique au Figaro et qui a été un conférencier jusqu'à la fin de ses jours, tout à fait passionnant et cultivé. Apparemment, jusqu'au XVIIIe siècle, le chef d'orchestre à l'opéra dirige depuis la scène, au milieu des solistes et des chanteurs. Au XIXe, il descend dans la fosse, mais il se place au milieu des musiciens. Et apparemment, il bat de la mesure avec sa baguette pour ceux qui sont devant lui, et il bat comme un canard avec ses coudes pour ceux qui sont derrière. Et Messager aurait reculé le chef d'orchestre jusqu'au bord de la fosse pour qu'il ait tout son orchestre devant lui et tous ses interprètes, ce qui paraît logique. On a de la peine à croire que les chefs n'aient pas réalisé ça plus tôt.
Oui.
Alors, on va revenir maintenant à l'île du rêve.
Oui, et donc, au rôle de messager dans la création.
Oui, alors, d'avoir messager dans la fosse, c'est comme d'avoir une bonne distribution, c'est quand même un gage de qualité.
Oui.
Et les gens vont venir expresser pour assister à la représentation. Qui aura un certain succès? Pierre Loti sera enchanté de cette représentation. Pierre Loti est un homme discret qui veut pas tellement qu'on le voit, qui reste un petit peu au retrait dans sa loge. Par contre, un spectateur qui arrive en retard au deuxième acte après avoir prolonger un peu l'entracte, aurait dit en regagnant son siège, « Mon Dieu, un forte, le seul de la partition et je l'ai manqué. » Ça donne un tout petit peu l'atmosphère de cette œuvre,
oui.
Assez nébuleuse, un peu à la manière des fragrances de Debussy. Et pour en savoir plus, écoutons précisément ce que Bernard Gavotti, ce critique éclairé, a dit.
Alors, la partition de l'île du rêve, écrit donc Gavotti, témoigne des qualités et des défauts qu'on pourra déceler dans tous les ouvrages lyriques de Reynaldo Hahn. Un sens mélodique inné, une émotion naturelle dans la déclamation, le don de la prosodie juste, de la suite dans les idées, un plan très judicieux faisant alterner de jolis motifs bien choisis et le retour des thèmes conducteurs, modèle de variété dans l'unité. Mais, en contrepartie, certaines banalités d'écriture, ainsi le prélude du second acte, trop sage, fait-il penser à une leçon d'harmonie selon les préceptes de Reber et Dubois. Le goût de la pureté classique l'emporte visiblement sur la recherche de la couleur locale que le sujet de l'opéra postule cependant. Surtout, il apparaît bien qu'en Reynaldo, l'harmoniste ne vaut pas le mélodiste.
Critique assez objective, assez juste, en tout cas à l'écoute de cette œuvre, dont il ne faut pas oublier que c'est une œuvre de jeunesse, qui est encore très très marquée par l'influence de Massenet. Alors, je vous propose d'écouter ce prélude du deuxième acte,
oui.
Dont certains, Gavotti estime que c'est une partie ratée, la partie la plus faible, mais beaucoup ont estimé que c'était la partie la plus réussie.
Alors, pour s'en donner une bonne idée, écoutons-la. Oui, pour autant qu'on puisse se rendre compte avec un enregistrement un peu difficile, hein, mais on n'est pas là non plus pour faire autre chose que pour se rendre compte des enjeux de cette partition, Lévi Robert. Il paraîtrait que ce prélude de l'acte 2 de L'île du rêve est plutôt réussi, avec une veine lyrique, avec des choses dont parle Gavotti dans son article. Là c'est l'orchestre régional Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, dirigé par Philippe Binder, qui nous incitait à écouter cette partition.
Oui, enregistré à Tahiti, parce que l'œuvre se passe à Tahiti.
Bon, très bien.
C'est le voyage de Loti à Tahiti. Et donc, c'est plein de couleurs locales aussi, cette œuvre. Et il y a du tahitien à l'intérieur, des mélodies populaires, etc. Anne, dont on a vu qu'il savait pasticher et s'inspirer, s'est inspiré des couleurs locales de Tahiti pour faire cette œuvre-là.
Dans cette île du rêve, succès public, un jeune compositeur est lancé, comment ça se passe?
Ça marche assez bien, c'est pas dithyrambique, et en même temps ceux qui en ont parlé sont des gens qui ont tout intérêt à défendre l'œuvre de Reynaldo Hahn, donc on ne sait pas exactement, j'ai pas vu les critiques négatives. C'est un succès d'estime, disons, on admire les qualités du jeune compositeur, mais on décèle pas encore là-dedans, on est en 1898, on décèle pas encore un véritable talent de compositeur d'opéra.
D'accord. Entre-temps, on change de siècle, des œuvres considérables, voire décisives, historiques sont écrites, et on se retrouve en 1902.
L'année de Péléas.
Oui, c'est ça.
Et Reynaldo Hahn est sollicité pour écrire une partition sur un texte de Catulle Mendès, dont on a parlé ces derniers jours.
Ce personnage considérable dont l'embonpoint sent le vin, la colle et la sueur.
Je reprends la citation.
Je ne sais plus.
Un tout petit peu plus détaillée de Léon Daudet, un tout petit peu plus méchante.
Oui.
Un pochard essoufflé et grandiloquent, puant le Bourgogne, l'éther et la colle, ce qui rendait son contact très pugnant.
Oui, c'est vraiment charmant. On a envie d'en faire son librettiste.
Absolument, on a envie de se faire un ami de l'auteur de la citation.
Oui, les deux en même temps. Partir en vacances, les trois, c'est très merveilleux.
Chose.
Oui.
En même temps, il s'occupait beaucoup des jeunes filles, donc il nous aurait pas beaucoup occupé, Catulle Mendès.
Probablement, oui.
Et indépendamment de ça, il a une écriture grandiloquente, assez prétentieuse, qui n'est pas extrêmement intéressante. Il a fait notamment les livrets de Gwendoline de Chabrier et de l'Ariane de Massenet, ce qui explique peut-être l'échec de ces deux œuvres. Malgré leur réelle qualité musicale.
Oui, Gwendoline, c'est une très belle œuvre à découvrir.
C'est superbe.
Mais oui.
Très wagnérien, comme
c'est ça,
wagnérien à la française, mais avec une précision d'écriture, d'orchestre tout à fait séduisante. Mm-hmm. Mais bon, c'est du Mendès.
Oui.
Et puis, ses poèmes ont aussi inspiré des compositeurs, mais il s'agit principalement de Paderewski, à côté de Reynaldo Hahn. Donc là non plus, on n'a pas gardé beaucoup de traces de ces mélodies de Paderewski, je ne les ai jamais entendues.
Mm-hmm.
Donc, finalement, la collaboration de Mendès avec la musique n'a pas forcément amené à un grand souvenir historique.
D'accord.
Là, Mendès, qui a rencontré Hahn dans un salon avec sa femme, Augusta Holmes, et qui avait vu que Hahn avait des capacités à écrire sur ses mélodies, lui propose le texte d'une pièce qu'il vient d'écrire, qui s'appelle La Carmélite. Alors La Carmélite, c'est pas celle de Poulenc, c'est pas Dialogue des Carmélites avec le massacre des nonnes pendant la Révolution. La Carmélite, c'est Madame de Lavallière, c'est une des favorites de Louis XIV. On va se trouver transporté à Versailles avec cette œuvre, et le jeune Hahn aime Versailles. On se souvient que dans Le Rossignol est perdu, le dernier cycle s'appelle précisément Versailles.
C'est ça, oui.
Donc ça le passionne, ça lui fait envie. Il écrit qu'il va relire tout Dumas. Il écrit qu'il ira à Tours, qu'il va aller à Amboise, à Reny, voir les lieux où la Vallière a passé son enfance et où elle rêvait à ce que serait sa vie. Et il a vraiment une passion pour ce projet, mais c'est de nouveau un projet très ambitieux, très lourd. Et Massenet doit le pousser beaucoup pour écrire. Massenet y croit, Reynaldo un peu moins, et a tendance à se décourager dans l'écriture de cette œuvre. Mais en décembre, elle va être montée sur la scène de l'Opéra Comique avec des artistes qui, pour l'époque, sont des stars. Emma Calvé, Hector Dufresne, Lucien Murator, Jeanne-Marie de Lille, et de nouveau Messager à la baguette, qui a vraiment un talent pour la musique française, qui dirige ça très bien.
On pourrait peut-être écouter l'ouverture de cette Carmélite.
Excellente idée.
Ah, c'est vous qui l'avez eue, faut dire. Écoutez l'ouverture, à défaut de pouvoir écouter l'œuvre entière. En voici donc les premiers parfums. pour se donner une petite idée. Olivier Robert.
Deux petites idées, puisqu'on a deux inspirations totalement différentes. On voit la chrysalide qui s'ouvre et l'esprit de Reinaldo qui se développe dans cette carmélite, dans cette ouverture de la carmélite. Et puis quand même quelque chose d'extrêmement différent ensuite dans l'air de Géori Boué du deuxième acte, oui. Où on a cette inspiration grand siècle, ce côté pastiche qu'on n'a absolument pas du tout dans l'ouverture. On sent déjà Ciboulette en germe dans cette ouverture de la carmélite.
D'accord, très bien. Vous me suggérer de lire une critique musicale.
Oui, je voulais dire qu'on a comparé à l'époque la carmélite à Pelléas pour vanter les mérites de Pelléas, évidemment, au détriment de Reinaldo Hahn. Mais à quoi bon ? Debussy est quand même un de ses génies, comme il y en a peu par siècle. La musique française n'a pas eu énormément d'opéras au XXe siècle marquants. Évidemment, Pelléas en est l'un d'entre eux. Et puis, Debussy est plus âgé que Hahn, et Hahn en est vraiment à ses débuts.
Donc,
je vous propose de nous lire un petit extrait d'une critique d'un horrible critique très craint, Louis Schneider.
Monsieur Reinaldo Hahn est un jeune musicien qui porte avec lui l'atroce tunique de Nessus de succès obtenu avec des mélodies pour femmes du monde. Il serait pourtant injuste de lui dénier un certain souffle, mais souffle court et un vif sentiment de la couleur locale. Mais il ne s'est pas assez livré à sa propre inspiration et il a trop laissé ouverte la fenêtre au ressouvenir. Sa partition, elle aussi, est un salon où se sont donné rendez-vous des phrases très connues qui coudoient des contours mélodiques très archaïques et portant perruques. Aussi ne faut-il pas prendre M. Reinaldo Hahn pour un novateur, mais plutôt pour un collectionneur.
C'est assez bien vu. Je trouve.
Oui, c'est assez méchant.
C'est assez méchant, mais c'est assez juste pour le Reinaldo de 1902. On peut se dire que Reinaldo Hahn est un homme qui maîtrise les formes courtes, comme Schubert et Mendelssohn, qui sont aussi des compositeurs qui, dans le lyrique, sont pas tout à fait originaux, pas aussi originaux que dans les impromptus ou les pièces brèves ou les romances sans parole.
Oui, c'est ça.
Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que Reinaldo Hahn a un peu de peine à arriver à écrire des grands opéras ou des œuvres de musique lyrique. On verra que par la suite, ça va s'améliorer. Pour l'instant, il s'inscrit dans la veine de son maître Massenet qu'il vénère, dans la prolongation de Saint-Saëns, de Gounod, et Saint-Saëns, pour parodier Schneider, a aussi son atroce tunique de Nessus, qui est son carnaval des animaux, qui a obscurci tout le reste de son œuvre.
Alors, je lis la Carmélite 1902, et maintenant on va parler de Marchand de Venise 1935. Ça veut dire que pendant 33 ans, Reinaldo Hahn n'écrit plus d'œuvres lyriques ?
Si, il écrit Nausicaa, mais on n'a aucun enregistrement, en tout cas je n'en ai pas retrouvé de cette œuvre, juste après la guerre. Il l'a pensé en 1915, pendant les bombardements, mais on n'a pas de traces, donc j'aurais pu vous en lire des critiques, mais rien vous faire entendre.
D'accord.
Alors, je passe au Marchand de Venise, parce que c'est une œuvre majeure. Vous allez voir le progrès qui a été fait dans la maîtrise de l'écriture. Entre-temps, il a écrit de l'opérette. Après la guerre, il se lance dans l'opérette, on va le voir tout à l'heure.
Oui.
Je trouvais que dans l'unité, il valait mieux en terminer avec l'opéra, puis passer à l'opérette après.
Très bien. Alors, ce Marchand de Venise, 1935, mais c'est une œuvre qui a mis du temps à être mûrie, avec un temps de gestation. En tout cas, on se rend compte que Reinaldo Hahn y a pensé pendant très longtemps.
Il a commencé à y penser en 1915, il a commencé à écrire une partie, mais il l'a rédigée pour que ce soit joué en 1935. Et vous vous souvenez qu'en 1915, il écrit le Ruban dénoué, cette magnifique suite pour deux pianos,
oui.
Dans laquelle on trouve déjà une allusion au Marchand de Venise. Et je vous propose d'écouter deux extraits qui vont nous permettre d'en juger.
Alors, d'abord, tel qu'il est composé pour deux pianos dans ce Ruban dénoué.
Oh!
puis donc là, cette même mélodie telle qu'elle apparaît désormais dans le premier acte de ce Marchand de Venise, quelques 20 ans plus tard.
L'acte
Olivier
1.
Robert, oui.
Oui, l'acte 1, le duo Jessica et Lorenzo.
Donc très beau sentiment de la mélodie.
Ça reste, évidemment. Même si ça va être une œuvre beaucoup plus âpre que les œuvres qui ont précédé, on sent que Reinaldo a besoin de se démarquer de cette image de mélodiste plaisant et salonneur. Et l'œuvre est beaucoup plus rude, avec des ruptures, des modulations assez audacieuses. Et pour moi, c'est une très grande œuvre. C'est une œuvre sans complaisance, qui est très bien écrite. Il va avoir une distribution éclatante, beaucoup de succès. Fanny Aldi, qui joue Portia, donc une Fanny Aldi qui a beaucoup chanté de Reinaldo Hahn, avec lequel elle s'entendait très bien. André Pernet, qui chante Shylock, Martial Saint-Ger, Bassanio. Et la baguette est confiée à Philippe Gobert, un flûtiste émérite, mais aussi un grand chef d'orchestre.
Oui.
Et pour moi, je me suis toujours demandé pourquoi cette œuvre avait eu tant de peine à avoir des reprises. Alors, l'esthétique, c'est encore un petit peu du Massenet, beaucoup moins. On est après la création du Nez Shostakovich, après Oedipus Rex de Stravinsky, on voit le décalage qu'il y a par rapport à ses œuvres. Or, le Marchand se revendique comme éminemment tonal, s'inscrivant dans la tradition des Rayer, des Bruno, des compositeurs comme Lalo, comme Chausson, qu'on a un petit peu oublié à l'opéra après la Première Guerre pour préférer une musique plus impressionniste, pour préférer la fibre développée par Debussy ou par Ravel.
Oui.
Et on peut dire que durant l'entre-deux-guerres, les opéras français qui ont survécu sont quand même très peu nombreux. Si je vous demandais de me citer 5 titres, peut-être auriez-vous de la peine et
je
vous auriez
embêté.
Raison.
Ouais.
Je rappelle peut-être Polyphème de Jean Cras, qui est très beau, mais qui n'a pas laissé beaucoup de souvenirs. Mmh. Padmavati de Roussel, Sophie Arnoux de Pierrenet, enfin des œuvres de ce type-là. Alors, Le Marchand de Venise s'inscrit dans cette lignée-là. Mais je pense que son livret lui a porté préjudice. Le livret, c'est Shakespeare, c'est la pièce de Shakespeare, une des pièces à problème de Shakespeare. C'est Miguel Zamacois qui a fait la transcription pour en faire un livret d'opéra. Mais l'histoire qui est racontée est une histoire assez horrible d'un usurier juif qui prête de l'argent à un marchand qu'il déteste en lui disant « Si tu me le rends pas à telle date, je prélèverai sur ton corps une livre de chair ». Et cette histoire est un peu celle qu'on va voir développer pendant la guerre dans Le Juif Sus, ce film de propagande antisémite extrêmement virulent, ou considéré comme tel, ou considéré comme l'emblème de la propagande antisémite pendant la guerre en 40, par Vahit Arlan, qui est un film qui raconte un petit peu la même chose. On est dans une période qui suit évidemment l'affaire Dreyfus, qui a quand même marqué les opinions, et on peut pas suspecter Reinaldo Hahn d'une vision antisémite, lui qui est à moitié juif. Malgré tout, bon, il adore Shakespeare, donc c'est probablement pour ça qu'il l'a choisi. C'est une pièce qui n'a pas été portée à l'opéra, contrairement à Hamlet ou à d'autres œuvres, mais peut-être que le choix n'était pas extrêmement heureux.
Oui.
Et c'est peut-être ce qui en explique une partie de l'échec.
Le reste est peut-être dû à des paramètres plus musicaux, mais ça, on peut s'en convaincre, hein, ou se convaincre du contraire, puisque vous nous avez choisi 3 extraits, dont un qui a été tiré de la création, en tout cas de l'époque de la création, puisqu'interprété par Martial Saint-Ger.
En 35, oui. C'est la date de la création. Et puis, il est en sandwich entre l'ouverture, sous la direction de Mark Trotman, d'une version dirigée à Portland en 1996, et puis à la fin, le final du Marchand de Venise dans la version de l'Opéra Comique 1979, dirigée par Manuel Rosenthal.
Cela pour l'ouverture du Marchand de Venise. Et quelques instants plus loin, l'air « Je le hais », là enregistré à la création en 1935, avec donc cette interprétation de Marcel Singer.
Avec notre âpreté, je l'ai pour les terres promises que jamais nous n'atteindrons. Et pour celles qu'ils ont conquises et qu'à leurs fils ils lègueront. Pour nos exodes en troupeau parmi
l'expression de la haine, la tirée donc de ce Marchand de Venise de Reinaldo Hahn, dont voici le final dans la version de l'opéra comique 1979, Manuel Rosenthal.
Pour lui faire un ciel heureux,
car il faut.
C'est probablement charmant. Vous êtes sûr que c'est du même compositeur, hein, Olivier Robert?
Ça explique bien cette ambiguïté de ce compositeur face à l'opéra, où il est jamais tout à fait dans ses marques. Alors on a entendu vraiment trois styles différents avec l'ouverture, le final et puis cette air extraordinaire chantée divinement par Martial Saint-Gère au milieu. Mais je tenais à montrer cette terre de contraste qui va résoudre en composant des opérettes. Oh, et on va remonter dans le temps, là on revient en 1923 avec sa première opérette. Il n'avait pas du tout l'intention de composer des opérettes et il va composer Ciboulette. Si vous vous souvenez, la première mélodie qu'il a composée a été un coup de maître. Et là, la première opérette qu'il compose est un coup de maître aussi. Ça va dicter son influence lyrique pour la fin de sa carrière. Et oui, il va écrire des comédies musicales et des opérettes jusqu'à sa mort. La dernière sera créée après son décès. Alors, Ciboulette, on va en parler, bien sûr, mais on va se la garder pour la bonne bouche, pour la fin.
Oui.
Et puis, on va sauter 3 ans en avant pour arriver au temps d'aimer. Personne ne connaît ce titre. C'est une œuvre totalement oubliée. C'est le type même de la comédie musicale à la française de l'époque. Elle ressemble à du André Messager, à du Louis Betz, avec l'influence de Christine et de Maurice Yvain, sans le jazz.
Bon.
Sauf un petit Charleston comme ça, mais il refusait l'influence américaine, comme Messager exactement. Par contre, il a repris les recettes qui consistaient à supprimer le chœur, à avoir des comédiens plus que des chanteurs. Mmh. Et ces artistes vont être des artistes à succès, mais ces artistes qu'on connaît par le cinéma, c'est Jeanne Cherel, Marie Dubas, Acquistapas, Lucien Barou. Ce sont des artistes de music hall qui ont fait beaucoup d'opérettes à cette époque-là et puis qui ont fait carrière au cinéma. Le livret d'une banalité absolument affligeante, c'est une femme qui est de 25 ans, la cadette d'un homme dont elle suspecte qu'il va à gauche et qui décide de divorcer. Ça s'arrête à peu près à cela. Par contre, la musique est tout à fait charmante et je vous propose d'en entendre un petit medley.
Mes chers amis, soyez témoins de notre bonheur sans partage.
À présent, non, loin de nous aimer moins, nous nous adorons davantage.
Leur bonheur, ils font trop étalage.
Avant que tombe le soir,
allons-nous asseoir sur la plage. Allons-nous asseoir sur la plage.
Dans le faisceau, la tente, en bredon et papetant, avec mon oncle et ma tante, maman nous attend. Avec un asiatique, débarqué du Turkestan, parlant de sa sciatique, papa nous attend.
Quand sur cette plage on va, que qui rencontre tant
du pseudo-tchécoslovaque et du vrai teuton.
On trouve aussi, quelle aubaine, des flirts quelquefois exquis.
Va retrouver la cubaine qui t'a conquis.
Le requiton, le requiton, le requiton, on va s'asseoir sur la plage.
Votre amitié n'est pas sincère si vous ne restez là pour fêter cet anniversaire.
C'est vrai, c'est vrai, c'est un anniversaire.
Peu de plus qu'elle n'est plus rebelle, le soleil emplit mon cerveau. J'ai des projets en ribambelle et la nature entière est plus riche et plus belle. Vous-même, vous me semblez beau, je vais pouvoir vivre auprès d'elle, écouter de bien doux instants, et je jure d'être fidèle longtemps. Quelle ivresse dans mon être, le monde me semble meilleur. Un joyeux orgueil me pénètre, je voudrais ouvrir ma fenêtre pour montrer à tous mon bonheur, pour montrer à tous mon bonheur.
Oui, quelques extraits de cet art si spécifique de l'opérette d'entre-deux-guerres. L'opérette, là, de Reynaldo Hahn, Le temps d'aimer, 1926, Olivier Robert.
Oui, dans ce genre d'œuvre, on a l'impression qu'il a trouvé son équilibre et qu'il est parfaitement à l'aise. Dans l'opéra, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui gratte, qui ne fonctionne pas très bien.
Oui, et ou là, un costume trop grand pour lui, oui, peut-être. Oui.
En tout cas, pas à sa taille.
Ouais.
Et là, oui, il est vraiment dans son monde. Et je pense qu'avec l'opérette, il a résolu un certain nombre de des contradictions ou des choses qu'on lui reprochait avant. C'est un compositeur qui est fait pour ça.
Et puis, c'est un compositeur qui a du succès là-dedans. 1926, oui.
On souligne toujours les qualités de sa musique. C'est toujours la partie qui est relevée, évidemment, parce que en général, enfin, il arrive que les livrets soient très pauvres, ce qui ne va pas être le cas de l'œuvre dont on va parler maintenant, qui s'appelle Mozart. Mais pour le ton aimé, c'était pas franchement le livret qui retenait l'attention.
D'accord. Alors Mozart, 1926, même année.
1926, même année que le ton aimé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il collabore avec Guitry? Guitry avait écrit L'amour masqué avec André Messager. André Messager avait écrit une partition qui mettait en vedette Yvonne Printemps, l'épouse de l'époque de Sacha Guitry. Et Guitry avait un rôle parlé. Et il a envie de réitérer. Il aime beaucoup Mozart. Il est fasciné par ce personnage. Et il le voit bien joué par Yvonne Printemps. Et puis on ne sait pas pour quelle raison Messager refuse carrément une nouvelle collaboration. Il refuse Mozart ou il refuse le défi de monter cette œuvre où il n'a pas le temps, je n'en sais rien. Mais Guitry ne sait pas du tout à qui s'adresser à ce moment-là et il demande à Hahn, dont il a entendu les partitions et pour lequel il a une certaine admiration, qui accepte. Alors c'est quand même un défi difficile à relever de monter une comédie musicale qui s'appelle Mozart. Il ne faut pas faire du pastiche, il ne faut pas écrire du Mozart, il faut quand même qu'il y ait une référence, il faut que ça reste original. Et Reynaldo Hahn s'en sent parfaitement capable.
Et nous, en ce jeudi, on le sait bien aussi, puisque vous nous avez fait écouter tout au long de cette semaine des signes de la faculté qu'avait Reynaldo Hahn, hein, de se glisser dans des styles musicaux différents.
Dans ces esthétiques-là, avec lesquelles il a beaucoup d'atomes crochus, tout en conservant sa propre personnalité. Et ça s'exprime extrêmement bien dans cette œuvre-là. On va en entendre d'ailleurs un extrait qui est assez loin de l'inspiration mozartienne et où on reconnaît toute la finesse d'orchestration typique chez Reynaldo.
Paris, ton désir.
C'était la Suzanne Graham avec l'Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, sous la direction de Yves Abel, pour cet extrait de Mozart, être adoré. Mozart de Reinaldo Hahn, donc, une opérette française, mais qui sait s'exporter.
C'est une œuvre qui va être jouée à guichet fermé pendant toute la première saison, qui va être reprise à Paris et qui va partir pour Broadway avec ses créateurs. En 1933, elle aura un énorme succès.
Pas mal.
La collaboration de Reinaldo Hahn et de Guitry ne s'arrêtera pas là. Ils réécriront une œuvre ensemble qui s'appelle « Oh mon bel inconnu », qui est une œuvre tout à fait plaisante qu'on connaît parce que il y a des couplets qui ont été chantés par Arletty, qui a été la créatrice d'un des rôles.
Et puis vous nous disiez qu'on allait terminer cette émission avec l'œuvre la plus connue de tout Reinaldo Hahn peut-être, oui. Ciboulette.
Ciboulette, 1923, première tentative, mais essai marqué pour cette Ciboulette. Reinaldo Hahn n'a pas du tout l'intention d'écrire de l'opérette, mais un de ses copains, le marquis de Flers, qu'on avait rencontré avec Reinaldo chez Madame Armand, dans un des salons parisiens, Madame Armand, la mère de Caillavet, qui écrivait avec Flers, Flers lui propose une opérette, et Hahn, peut-être parce que c'est un ami, lui dit, ben finalement, pourquoi pas. Il lui dit, elle s'appellera comment ? Ciboulette. Reinaldo fait la grimace et dit bof, qu'est-ce que c'est que la ciboulette ? C'est une espèce d'ail sauvage avec un goût particulier. C'est pas vraiment un titre porteur. Bon, dit Flers, bah ce sera citronnette. Du coup, Reinaldo bâche et accepte ce titre et se met à écrire, mais sans beaucoup d'enthousiasme. Ciboulette raconte une histoire qui est pas mal du tout au niveau du livret. C'est l'histoire de la suite de la bohème de Puccini, la vie de bohème de Murger, c'est-à-dire Rodolphe qui est devenu vieux, qui habite au Carré des Halles et qui ressasse son passé sous le nom de Duparquet et qui rencontre une petite marchande des quatre saisons appelée Ciboulette qui lui rappelle la Mimi de sa jeunesse. Et cette œuvre à laquelle Reinaldo ne croit pas du tout aura immédiatement un succès énorme. Il faut dire qu'elle est bien servie, c'est Edmé Favard qui tient le rôle titre, et Jean Perrier. Perrier, il a créé Florestan de Véronique, il a créé Ramiro de l'heure espagnole, il a créé Péléas de Debussy, donc c'est un artiste vieillissant, mais considérable. Le succès va être magnifique, et l'œuvre va être reprise dans le monde entier, même à Lausanne, où elle a fait l'objet de 5 séries de représentations. Je vous propose d'écouter le final de l'acte 1, qui est absolument magnifique et généreux, avec cet air du Muguet sur « il court le furet ».
Vous êtes la jeunesse dorée, et vous ne valez pas 400.
Reynaldo Hahn ou Le Rossignol éperdu. Ainsi s'achève donc cette émission de Musique en mémoire. Mais demain, on se penchera de nouveau sur le cas de Reynaldo Hahn, de sa musique, aujourd'hui si oubliée, mais plus tant que ça, grâce à vous, Olivier Robert, merci à vous et à Samuel Morier-Genoux pour ses réalisations de Musique en mémoire. Merci à Isabelle Watson pour son assistance à la production. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.